Voix Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 15 avril 2022. Bonjour à toutes et à tous. En direct de Washington, Idrissa Sidoudia
et Rosine Munezero.
Nous commençons par les titres.
De nombreux blessés aujourd'hui dans des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem.
Forte opposition de l'ONU au projet de Londres d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire.
En Guinée, le RPG du président déchu Alpha Condé suspend sa participation aux assises nationales.
Au Sénégal, la femme qui accuse l'opposant Ousmane Sonko de viol devant un juge hier à Dakar.
En Somalie, le Parlement prête serment après des élections longtemps repoussées et un scrutin chaotique.
Ici aux États-Unis, les parents de Patrick Lioya, le Congolais tué par un policier blanc à Grand Rapids dans le Michigan, ont appelé à des poursuites contre le policier impliqué dans sa mort.
Eddie Sango s'est entretenu avec le père de la victime. Ce sera en seconde partie de cette édition.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Tout d'abord, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem. Les premiers depuis le début du Ramadan ont fait une centaine de blessés ce vendredi sur fond de crainte d'un embrasement dans les territoires palestiniens occupés. De son côté, la police israélienne a indiqué que 3 de ses agents ont été blessés.
Selon elle, vers 4 heures du matin, des dizaines de jeunes émeutiers masqués, certains s'affichant avec des drapeaux du mouvement islamiste armé Hamas, ont amorcé une procession sur l'esplanade des mosquées et lancé des pierres en direction du mur des Lamentations adjacent, plus important lieu de prière de la tradition juive. La police dit être intervenue pour établir l'ordre.
L'actualité africaine, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a fait part hier jeudi de sa forte opposition au projet britannique d'envoyer au Rwanda des demandeurs d'asile arrivés illégalement sur son territoire. L'OACR appelle les deux pays à repenser leur projet. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Les personnes fuyant la guerre, les conflits et les persécutions méritent compassion et empathie. Elles ne devraient pas être échangées comme des marchandises et transférées à l'étranger pour être traitées, a déclaré dans un communiqué Gillian Triggs, haut-commissaire assistante du ACR en charge de la protection internationale. Elle a expliqué que le ACR reste fermement opposé aux arrangements qui cherchent à transférer des réfugiés et des demandeurs d'asile vers des pays tiers en l'absence de garanties et de normes suffisantes. Amnesty International a critiqué une idée scandaleusement mal conçue et souligné le bilan lamentable en matière des droits humains du Rwanda. Daniel Soege, directeur de l'Organisation de défense des droits humains Stand for All, a dénoncé une initiative inhumaine, irréalisable et très coûteuse. Pour Nadia Hartmann de Human Rights Watch, le dispositif va compliquer le processus pour les réfugiés syriens qui recherchent désespérément un endroit sûr.
Nous y reviendrons plus en détail en seconde partie de cette édition avec notre correspondant sur place à Kigali. La section Afrique de Greenpeace s'est inquiétée hier d'un projet d'exploitation du nouveau bloc pétrolier en République démocratique du Congo. Elle a appelé Kinshasa à revenir sur ce plan aux conséquences catastrophiques, dit-elle, pour l'environnement.
Le Conseil des ministres a approuvé il y a une semaine un projet de mise aux enchères de 16 blocs pétroliers, dont au moins 9 dans l'écosystème sensible de la cuvette centrale. Rappelle l'ONG dans un communiqué.
En Guinée, le RPG, formation de l'ex-président Alpha Condé, renversé par un putsch en septembre 2021, a annoncé hier soir la suspension de sa participation aux assises nationales. C'est pour protester notamment contre la détention de plusieurs de ses responsables. Les assises nationales ouvertes le 22 mars jusqu'au 29 avril ont été présentées par la junte guinéenne comme une occasion historique de panser les plaies d'un passé troublé, mais nombre d'organisations politiques ont décidé de les boycotter.
Au Sénégal, selon des images diffusées par la télévision privée TFM et sur les réseaux sociaux, la justice a entendu hier à Dakar Hadji Sarr, la femme qui accuse de viol Ousmane Sonko, le principal responsable politique d'opposition, et ce, dans le cadre d'une confrontation avec Madame Ndeye Hadi Ndiaye, gérante du salon de beauté où elle était employée comme masseuse.
C'est là qu'Hadji Sarr affirme avoir été violée par Monsieur Sonko, qui a déclaré y être souvent allé se faire masser pour soulager un mal de dos. Mais il dénonce un complot visant à torpiller sa candidature à la présidentielle de 2024, tandis que le camp du président Macky Sall réfute toute instrumentalisation de la justice.
En Somalie, les 300 membres du nouveau Parlement ont prêté serment hier jeudi après des élections longtemps repoussées et un scrutin chaotique marqué par des violences et une lutte de pouvoir. Le point avec Abdourahmane Dia.
La cérémonie de prestation de serment des membres de la Chambre basse et de la Chambre haute s'est déroulée à Mogadiscio, dans la zone hautement sécurisée de l'aéroport. Nous avons dû faire face à des défis et des tentatives de nous empêcher d'arriver à ce jour-là, mais je suis très heureux d'assister à cela aujourd'hui, a dit le Premier ministre Mohamed Hussein Robel pendant la cérémonie. Je félicite les nouveaux législateurs qui, j'espère, aideront le pays à surmonter la situation difficile actuelle, a-t-il ajouté. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, dit Farmajo, a pour sa part qualifié l'événement d'historique sur Twitter. La rivalité entre M. Robel et Farmajo a perturbé les élections dans ce pays qui attend depuis plus d'un an un scrutin présidentiel. Le mandat du président Farmajo est arrivé à échéance en février 2021, plongeant le pays dans une profonde crise politique. Selon le système électoral somalien, les assemblées des États et des délégués investis par une myriade de clans et de sous-clans choisissent les législateurs qui, à leur tour, désignent le président.
En Afrique du Sud, les secours épaulés par des hélicoptères ont continué hier à retirer des corps, des décombres, des inondations sans précédent qui frappent ce pays depuis 4 jours. Un nouveau bilan s'étend et alourdi dans la soirée à 341 morts et 41 000 personnes affectées.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Ukraine, les Russes ont essuyé un important revers militaire sur la mer Noire. Le Parlement ukrainien a qualifié de génocide les agissements de l'armée russe. Et Moscou accuse l'Ukraine d'avoir bombardé 2 villages. Claire Morin-Gibourg.
Stationné à Sébastopol en Crimée, le croiseur Moskva, gravement endommagé, a coulé, a affirmé hier le ministère russe de la Défense. L'équipage de plus de 500 hommes a été évacué. La Russie a accusé l'Ukraine d'avoir bombardé 2 villages russes près de la frontière, dont un avec des hélicoptères et qui a fait 8 blessés. 30 Ukrainiens ont été libérés dans un nouvel échange de prisonniers, a annoncé Kiev. Le Parlement ukrainien a qualifié de génocide les agissements de l'armée russe. Le président américain Joe Biden a utilisé ce mot mardi. Le Kremlin a rejeté ces propos. L'Ukraine a annoncé jeudi une reprise des évacuations de civils via 9 couloirs, notamment à partir de la ville assiégée de Mariupol dans le sud-est, après une journée de suspension. Un responsable du Pentagone a affirmé que la météo pluvieuse dans le Donbass pourrait favoriser l'armée ukrainienne face aux forces russes qui continuent de préparer leur offensive dans cette région.
Pour sa part, le président russe Vladimir Poutine a appelé à réorienter les exportations énergétiques russes de l'Europe vers l'Asie du fait de la crise provoquée par son offensive en Ukraine, accusant les Européens de déstabiliser le marché en voulant se passer d'hydrocarbures russes.
El Shafi El Sher, membre de la cellule dite des Beatles au sein du groupe État islamique, a été reconnu coupable hier par un tribunal américain d'avoir joué un rôle dans l'enlèvement et la mort de 4 otages américains en Syrie. Jacques Aristide.
Accusé d'être membre de ce trio, surnommé ainsi en raison de leur accent britannique, il était jugé à Alexandria, près de Washington, pour la capture et la mort des journalistes James Foley, Stephen Sotloff et des travailleurs humanitaires Kayla Moule et Peter Kasek. Le jury devant un tribunal fédéral n'a mis que 12 heures pour le déclarer coupable des 8 charges qui pesaient contre lui. Il n'a pas réagi à l'annonce du verdict, alors que des membres des familles des victimes, présentes à l'audience, avaient les larmes aux yeux. Sa sentence sera prononcée ultérieurement et il risque la prison à perpétuité. Âgé de 33 ans, El Shafi El Sheikh a choisi de garder le silence tout au long de ce premier procès contre le groupe État islamique aux États-Unis, qui a duré 2 semaines. Par la voix de son avocate, il a admis avoir rejoint les rangs du groupe djihadiste tout en niant être l'un des Beatles.
La Minute Éco, Nani Talani.
Le Sénégal veut se lancer dans la production durable d'huîtres pour augmenter les revenus. Il importe de mettre en place un suivi de la qualité des eaux car les zones de production sont soumises à des contaminations chimiques, biologiques, microbiologiques et par microalgues, reconnaît le ministère de la Pêche. L'État a établi un plan de développement, notamment pour améliorer la production, la conservation et le transport. Il faudra aussi concilier hausse de la production et préservation de la mangrove. La douzaine d'huîtres du Sénégal se vend entre 4 500 et 6 000 francs CFA. L'activité largement informelle fournit des milliers d'emplois. La Côte d'Ivoire a levé plus de 2600 milliards de francs CFA sur le marché régional pour dynamiser son économie en pleine croissance en 2021, a annoncé jeudi le Trésor ivoirien. Ce montant est plus élevé que les 2229 milliards de francs CFA prévus. Pour 2022, Abidjan prévoit une mobilisation de 2005 milliards de francs CFA. Terminons par la reprise économique qui restera lente dans les 3 plus grandes économies du continent africain, l'Angola, le Nigeria et l'Afrique du Sud, indique la Banque mondiale. Si les 2 premiers pays cités devraient tout de même bénéficier de la hausse des cours du pétrole, l'Afrique du Sud fait toujours face à des problèmes des pénuries d'électricité.
Merci Nanit. À présent les sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. C'est le choc attendu dans cette Basketball Africa League dont les rencontres de la conférence Nil se poursuivent au Caire en Égypte. Le champion en titre, le Zamalek et Petro de Luanda, 2 victoires chacun, se disputent aujourd'hui la suprématie de la conférence Nil. À suivre également le match entre Cobra Sport du Soudan du Sud et les Cape Town Tigers qui effectuent leur 4e sortie dans cette conférence. Les matchs de cette conférence Nil se poursuivent jusqu'au 19 avril, pour rappel, chaque équipe a 5 rencontres à disputer et les 4 premières de cette conférence Nil se qualifieront pour les play-offs prévus en mai à Kigali, au Rwanda. Football, le FC Barcelone du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang s'est fait surprendre à domicile par l'Eintracht Francfort en quart de finale retour de la Ligue Europa et n'ira pas en demi-finale. Les Catalans se sont inclinés 3-2 au Camp Nou, 1 but partout au match aller. Lyon a sombré à domicile devant West Ham 3-0. Les Londoniens s'offrent une demi-finale face à Francfort. De son côté, le RB Leipzig s'est montré solide pour s'imposer 2-0 à Bergame face à l'Atalanta et sortir vainqueur de ce duel entre 2 équipes au football offensif. L'Olympique de Marseille a confirmé son succès du match aller 2-1 contre le PAOK Salonique en battant de nouveau le club grec 1-0. En Europe, l'avocat du club de Naples défend la sincérité de l'opération ayant amené l'attaquant nigérien Victor Osimhen en Italie à l'été 2020 en provenance de Lille. Il répond ainsi aux accusations de fraude comptable visant le club napolitain. En parallèle à l'achat d'Osimhen, le Napoli a fait baisser la facture en vendant à Lille 4 joueurs pour environ 20 millions d'euros. Cette somme est considérée par la presse comme surévaluée puisque 3 de ces joueurs n'ont jamais joué à Lille et évolue désormais en 3e division et en deçà en Italie. Naples, comme 10 autres clubs, est poursuivi par la justice sportive pour des fraudes comptables présumées. Et puis la demi-finale du barrage du Mondial 2022 Écosse-Ukraine reporté en mars en raison de l'offensive russe, a été reprogrammé au 1er juillet et son vainqueur affrontera le pays de Galles le 5 juillet pour une place au Qatar, annonce la FIFA. La rencontre Écosse-Ukraine aurait dû avoir lieu à Emden Park le 24 mars, mais avait été reportée avec le soutien de la Fédération écossaise, alors que la plupart des internationaux ukrainiens étaient profondément affectés par l'invasion en Ukraine commencée en février.
De nouveau avec vous, Idrissa Sebouya. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Émotion et colère ont suivi ici aux États-Unis la publication par la police de Grand Rapids dans le Michigan de la vidéo de la mort de Patrick Liuya, un jeune Congolais abattu par un policier blanc lors d'une altercation consécutive à un contrôle routier. Ses parents ont affirmé jeudi qu'ils avaient fui la guerre en République démocratique du Congo pour finalement découvrir ce qu'ils ont appelé un génocide aux États-Unis. Ils ont appelé à des poursuites contre le policier impliqué dans la mort de leur fils. Eddie Isango a parlé au père de Patrick Liuya. Les propos en swahili de Peter Liuya sont traduits en français par son interprète.
Et moi, je n'ai pas beaucoup à dire, mais seulement on m'a appelé pour me montrer comment est-ce que la vidéo, comment est-ce que mon fils a été abattu, il a été tué. Mais ce qui est étonnant et surprenant, ils ont commencé par me dire que ce n'était pas bon que je voie la vidéo. Mais je leur dis que j'ai besoin de voir comment est-ce que mon fils a été tué. Et quand ils m'ont montré la vidéo, comment est-ce que mon fils a été détenu par la police, il lui a mis les mains derrière, il était couché par terre. Son visage était en train de regarder par terre et il a pris son genou, l'a mis sur le dos de l'enfant et il lui a tiré dans la tête. Ce que je veux dire, ce qui est important, je suis vraiment dans la douleur et je pleure beaucoup puisque je vois qu'ils ont modifié la vidéo qu'ils m'ont montrée. La vidéo, la première vidéo qu'on m'a montrée, elle était vraiment claire, comment est-ce que mon fils a été tué. La douleur que j'en ai vraiment de voir que la vidéo a été modifiée vraiment. Et ils ont fait des certaines choses qui n'étaient pas dans la vidéo, donc ils ont modifié vraiment la vidéo. Et ceci me fait vraiment pleurer. Et je voulais vraiment qu'ils présentent la première vidéo qu'ils montrent, la première vidéo qu'ils m'avaient montrée de le premier jour. Je n'étais pas seul, j'étais avec mon interprète et lui, il a vu aussi. Et il peut témoigner à ma place. C'est une vidéo vraiment qui apporte la douleur. Je veux la justice pour Patrick.
Mais maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vous a montré? Il a été dit que votre fils avait brûlé le feu au rouge et qu'il n'avait pas les documents du véhicule et qu'il avait résisté à l'arrestation.
Premièrement, je voulais dire que tout ce qu'ils ont dit, c'est du mensonge, puisque Patrick a été tué, abattu dans la cité. Et là où Patrick a été abattu, il n'y avait pas le feu rouge.
Et qu'est-ce que vous pensez faire maintenant?
Ce que je veux maintenant, c'est la justice, que la loi soit faite à propos de mon fils Patrick. Et je veux une justice intègre, une justice claire. Je ne veux pas une justice mélangée avec de mensonges. Et jusque-là, je suis en train de demander qu'il me montre le visage, l'identification du policier, mais jusque-là, il continue à cacher. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de mentir? Ils ont tué la personne, mais jusque-là, ils ne veulent pas montrer la personne qui l'a tué. Je veux vraiment la justice pour mon fils. Et je veux la vidéo originale, ce qu'on m'avait montré dès le début, qu'on puisse montrer à toi au monde entier.
Est-ce que vous avez vu le corps de votre enfant?
Jusqu'à présent, on ne m'a pas encore montré le corps de mon fils.
Parlez-nous un peu de votre fils. Qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie?
Bon, Patrick est venu ici, il est encore jeune, il a étudié ici, il a obtenu son diplôme de l'école secondaire ici. Et puis Patrick était instructeur de danse. Et puis il était ouvrier comme tout le monde, il faisait les travaux que tout le monde fait ici. Mais il était un enfant docile, un enfant calme, je ne l'ai jamais vu avec de problèmes dans la société ou bien dans la communauté. Et il avait un bon cœur, il aimait sa famille. Chaque vendredi, dans le week-end, il venait toujours me rendre visite, il amenait des cadeaux pour sa famille.
Peter Liuya, père du jeune Congolais Patrick Liuya, abattu à Grand Rapids dans le Michigan, ici aux États-Unis. Le Rwanda a signé ce jeudi un accord de partenariat avec le gouvernement britannique pour accueillir sur son sol des migrants qui vivaient illégalement au Royaume-Uni. Avec cet accord, Londres débloquera 150 milliards de livres qui seront alloués aussi bien à la migration qu'au développement économique. De Kigali, les précisions de Jean Damascène Manishimwe.
Cet accord signé entre le Rwanda et le Royaume-Uni s'étendra sur une période de 5 ans, avec le coût estimé à 150 milliards de livres sterling. Avec ce fonds, les migrants auront droit aux services de l'éducation, de la santé et de l'emploi. Et ces derniers seront intégrés dans le cours normal des autres Rwandais. Cette expérience n'est pas nouvelle pour le Rwanda. En 2019 déjà, le Rwanda accueillait un groupe de migrants venus de Libye au terme d'un accord avec l'Union africaine. Comment justifier cette décision pour un pays qui compte environ 13 millions d'habitants sur une superficie d'un peu plus de 26 000 km2 ? Le ministre rwandais des Affaires étrangères de la coopération, Vincent Biruta, explique.
Our people here in Rwanda, a good number of them have in their previous lives.
La plupart des Rwandais ont expérimenté dans leur vie passée les défis d'être déplacés, réfugiés ou demandeurs d'asile. C'est cette expérience qui a convaincu le gouvernement du Rwanda et qui nous a poussés à faire quelque chose contre ce problème de migration illégale. Il y a deux façons de réagir. Regarder le problème et rester indifférent ou de chercher de nouvelles solutions car le problème est là.
The other one will be to try new solutions because the problem is there.
La secrétaire d'État à l'intérieur au Royaume-Uni, Priti Patel, explique pour sa part que son pays a décidé de s'engager avec le Rwanda suite à ses réalisations en termes d'assistance et de développement humain.
But Rwanda has a very unique history in terms of refugees and resettlement.
Le Rwanda a une histoire assez unique en termes de réfugiés et de réintégration. D'abord, le Rwanda est un pays sécurisé qui respecte l'état de droit et visiblement les institutions y ont évolué à travers le temps. Nous apprécions la façon dont le Rwanda a intégré plus de 130 000 réfugiés, des pays divers et beaucoup d'innovations en plus des investissements et du développement économique.
Good innovations that have taken place, along with some of the investments, the economic development.
L'accord signé ce jeudi ne révèle pas tout de même le nombre de migrants qui seront accueillis par le Rwanda. Il ne précise pas non plus quand les premiers migrants pourront fouler le sol rwandais. Jean Damascène Manishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
Au Cameroun, environ 3 900 000 personnes ont besoin d'aide humanitaire. Les réponses à leurs besoins sont contenues dans un plan d'aide présenté ce mercredi à Yaoundé par OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Cette année, 2,6 millions de personnes seront ciblées pour sauver des vies et réduire les souffrances. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Julta.
Les personnes vulnérables sont à majorité les bénéficiaires de ce plan d'aide qui va coûter 317 millions de dollars. Karine Perrine, chef de bureau de la coordination humanitaire au Cameroun.
Dans les régions où il y a le plus de besoins aujourd'hui, c'est l'extrême nord, du fait de la violence liée au conflit. Les régions du nord-ouest, sud-ouest, suite à la crise qui existe et l'impact qu'il peut y avoir sur des régions avoisinantes, et puis tout l'est du pays, du fait de la présence de réfugiés centrafricains qui ont dû fuir leur pays du fait du conflit et de la violence dans leur pays.
Selon le coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun, le Ghanéen Mathias Nab, 9 des 10 régions sont impactées, mais à des degrés différents en 2022. À nouveau, écoutons Karine Perrine, chef de bureau de la coordination humanitaire au Cameroun.
Dans certaines zones, ça peut être plus une nécessité d'intervention en sécurité alimentaire. Donc ça dépend vraiment de l'analyse des besoins qui a été faite, etc. Mais le plus souvent, on s'attache à apporter une assistance multisectorielle, c'est-à-dire de plusieurs secteurs, pour pouvoir répondre à l'ensemble des besoins des populations. Il n'y a pas nécessairement un aspect qui prendra plus d'argent. L'important, quand on parle de ressources budgétaires ici, c'est de rappeler que malheureusement, les plans de réponse humanitaire au Cameroun sont sous-financés ces dernières années.
En 2021, ce plan n'a reçu que 51% des fonds attendus. Il en faut plus cette année pour aider plus de 2,4 millions de personnes en phase de crise ou d'urgence d'insécurité alimentaire. Jadis, le gouvernement a souvent contesté les statistiques du Bureau des affaires humanitaires des Nations Unies au Cameroun et émis des réserves sur quelques-unes de ses activités. Au sujet du plan 2022, les deux parties semblent accorder leur violon. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale.
Nous discutons régulièrement avec nos partenaires et nous n'avons pas l'impression de parler toujours le même langage. Depuis un certain temps, les relations s'améliorent. Nous arrivons à discuter sur des projets importants. Nous avons les divergences de vue sur un certain nombre de projets, mais nous discutons. L'essentiel pour nous, c'est de mettre en place les mécanismes qui nous permettent, n'est-ce pas, d'apporter assistance à ces personnes qui sont vulnérables et qui ont besoin de l'assistance.
Ce plan veut garantir le retour à l'école de plus d'un demi-million d'enfants et secourir près de 2 millions de déplacés internes suite à ces conflits dans le pays. Yaoundé, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
En Côte d'Ivoire, musulmans et catholiques observent le jeûne dans une période rendue plus difficile encore par la cherté de la vie. Presque tout a augmenté. Alors, comment se fait la rupture du jeûne de part et d'autre? Un reportage de Delphine Boise, notre correspondante à Abidjan.
Les communautés catholiques et musulmanes observent le jeûne en même temps, mais cette année, la cherté de la vie rapproche tous les croyants.
Je suis madame Poumouin. Tout ce qui est dans le marché, spaghetti, arachide, oignon, tout ça, tout est devenu cher. Les autres choses aussi, là, on ne parle pas. C'est bien avant le temps de carême.
Moi, c'est Diao Aminata. Je vends nos petits marchés de Doki. Il y a longtemps, depuis maladie, la même est venue, là, tout est changé.
Rares sont ces femmes qui arrivent à s'en sortir, et c'est le cas de Maman Konati.
La vie est chère, mais ça va. Grâce à Dieu, ça va. Les vieux nous nourrissent bien. Les enfants nous envoient beaucoup de choses. Riz, huile, sucre, lait, tout. Je remercie Dieu.
Comment comprendre que catholiques et musulmans font le carême au même moment? Imam Gerasouba Yakuba de la mosquée Nour Islam de Yopougon Ananure explique.
C'est une belle coïncidence cette année que les deux grandes communautés chrétiennes et musulmanes font la même pratique religieuse, c'est-à-dire le carême et le jeûne. Le jeûne musulman et le carême chrétien, tous deux ensemble, soit un bonheur pour notre pays, soit une clémence pour le monde entier, que la paix règne chez nous en Côte d'Ivoire, et bon jeûne aux musulmans, et bon carême aux chrétiens, et que la paix règne dans le monde.
Pour ce prêtre de l'église catholique, c'est une action de grâce de Dieu. Le père Kakou Valentin, prêtre catholique, paroisse Sainte-Monique, ancré d'Okui.
Il faut dire que c'est une action de grâce, la foi des nerfs. Si on a réfléchi à cela, cela montre combien de fois Dieu est un pour nous tous. Cela doit nous rapprocher, surtout parce qu'aujourd'hui, divisé dans nos maisons pour des problèmes des religions, Dieu est unique. Cela me fait plaisir de savoir que les musulmans sont en carême, que les chrétiens en carême, et prient ensemble pour notre pays, pour notre nation.
Chez les musulmans, tout comme chez les chrétiens, la rupture du jeûne se passe généralement en famille, à la mosquée ou à l'église.
Je suis Madame Bois, Edith. Chez moi, à la maison, ceux qui jeûnent, les soirs, nous prions et puis nous partageons le repas. Dans la joie, dans la gaieté, nous offrons aussi des choses aux voisins.
Visite dans la famille Konaté au quartier Maou. Dans la commune de Cocody en Gré, Maman Konaté nous fait partager le menu.
Il y a bouillie, il y a sosongomi, il y a bissab, il y a nyamaku, il y a tchéké, il y a poisson, il y a café aussi. Libre avec pain, vers 18h30, année d'après. On donne aussi à les voisins.
Chez les musulmans, en dehors du carême par tradition, les repas se prennent ensemble, nous dit Maman Konati.
D'habitude, mais on fait comme ça.
Le regard de Wane Cheikh Malik.
Je suis un élève de la classe de 3e. Prendre le repas en famille, ça amène de la paix dans la famille, de la cohésion, de l'amour.
C'est dans le sourire et la gaieté que nous prenons congé de cette famille.
On est très contents.
Chez les catholiques, le carême a démarré le 2 avril avec le mercredi des cendres pour s'achever ce 17 avril avec la fête de Pâques, quand le ramadan chez les musulmans se poursuit jusqu'à la fin du mois avec la fête de l'Aïd el-Fitr qui célèbre la fin du ramadan. Delphine Bouise, Abidjan, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Sedoudia et de Rosine Mounet-Zéro. Michel Joseph était à la mise en onde et Kelvin Fowler à la console. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.